France Culture.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Depuis 1984, les documentaires d'Une vie, une œuvre nous initient aux grandes personnalités de l'histoire des arts. Aujourd'hui, nous ouvrons de nouvelles perspectives et élargissons notre voyage biographique et documentaire à de grandes figures de la société civile. Entre découvertes, connaissances et émotions, nous nous engageons sur la piste de toutes celles et ceux qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Bienvenue dans Toute une vie. Son nom est moins évocateur que ceux de ses héros imaginaires, Lucky Luke, le petit Nicolas ou encore Is No Good et surtout le célèbre Astérix. René Goscinny, 1926-1977, c'est toute une vie d'irréductible.
René Goscinny, Albert Uderzo, je n'ai plus à vous présenter, vous êtes les auteurs d'Astérix. Et vous êtes les papas d'un petit personnage dont la France entière a parlé, qui a eu cette année un succès foudroyant. Alors nous avons pensé à vous réunir ici, dans ce studio, pour faire une émission ensemble, originale et amusante sur Astérix.
Ben, ça va être difficile.
Oh oui.
Vous pensez vraiment que tout a été dit sur Astérix?
Bah oui.
Alors tant pis, fais pas d'émission.
René Goscinny, auteur majeur pour art mineur. Assia Khalid, Romain Weber. Qui est René Goscinny?
Mon père. Mon père, ce héros au sourire si doux. Mon père, l'homme de ma vie, le premier homme de ma vie. Et aussi un génie incontesté, incontestable. Tout le monde, grâce à mon père, peut sans complexe lire une bande dessinée en riant de choses intelligentes. Il y a des calembours de mon père. Moi, je suis sûre que je n'ai pas fait le tour aujourd'hui encore de tous les calembours de mon père, que pourtant je lis avec frénésie depuis l'âge de 9 ans, puisqu'il est mort quand j'avais 9 ans. Et j'ai commencé à lire Astérix peu de temps après sa mort. Et très vite, j'ai compris que pour avoir accès désormais à la parole de mon père, il faudrait que je tourne les pages d'un livre. Et c'est ce que j'ai fait, mais avec beaucoup de respect, beaucoup d'admiration, pratiquement parfois en me retenant même de rire, parce que c'est compliqué pour un enfant de rire des mots d'un mort qui vous manque tant.
Pour moi, c'est mon père spirituel, parce que c'est certainement grâce à lui que je fais de la bande dessinée aujourd'hui.
Qu'a-t-elle ? Auteur de bande dessinée.
J'ai été biberonnée toute petite à Astérix et puis après, évidemment, au petit Nicolas et tous les autres héros. Et je les ai recopiés, que ce soit les dessins de Uderzo, de Sampé, de Maurice. Mais surtout, j'étais fascinée par l'humour de Goscinny et je crois que de façon plus générale, pour les gens, il est le père de la bande dessinée moderne européenne. Voilà, la bande dessinée des années 60 qui a pris de l'essor et qui est passée, en fait, de la bande dessinée pour les enfants, un peu simple, voire parfois un peu débilisante, à la bande dessinée dite adulte.
René Goscinny, c'était un homme...
Patrice Lecomte.
Très élégant.
Cinéaste.
J'ai toujours vu tirer à quatre épingles. Je n'imagine pas, en tout cas, je ne l'ai jamais vu sans cravate, par exemple. Je ne l'imaginais pas sans cravate. Je n'imaginais pas en train de ratisser son jardin en jogging sans forme. Non, c'était un homme qui était très, très tiré à quatre épingles, mais ça ne le rendait pas plus sérieux pour autant. Parce que vous savez, les gens, quand ils sont habillés comme un directeur de banque, ils peuvent en imposer avec une espèce de sérieux, alors que ce type n'était pas sérieux. Il faisait son travail très sérieusement, mais il avait, ça j'adorais ça chez lui, il avait deux petites fossettes très célèbres qui donnaient l'impression qu'il riait tout le temps. Mais il avait surtout, et ça renseigne encore plus, il avait l'œil qui pétillait souvent.
Peut-être que vous pouvez nous le dessiner, René Goscinny.
Ben voilà, je vais vous faire un portrait comment moi je le vois, hein, parce que je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. René Goscinny, heureusement, il a une tête bien reconnaissable, même tout petit enfant, parce qu'il avait d'une part ce nez pointu, et il avait deux fossettes. Quand il souriait, voilà, ses fossettes se creusaient, il était très distinguable par cela. Il était vraiment fait pour le rire et il avait cet énorme désir de faire rire. Et ça se voit sur son visage. Voilà, donc entre son nez pointu et ses deux fossettes, il y a un visage, une bouille assez rigolote, ronde. Ben voilà, j'ai mon personnage. Toujours l'œil malicieux. Le sourire, voire le rire au coin de la bouche. les cheveux un petit peu crépus, bouclés.
René Goscinny, quand il a connu un succès
Pascal Horry,
national puis mondial avec
historien.
Astérix, a été souvent considéré comme une sorte de français moyen, un peu franchouillard sur les bords, vaguement gaulliste, etc. On est dans les années 60, il y a eu des articles très sérieux dans Le Monde et ailleurs qui glosaient là-dessus. Alors que quand on voit sa biographie, c'est un enfant d'immigré, hein, comme Uderzo, qui est un fils de Rital. Et René Goscinny, lui, est né à Paris en 1926, mais juste après la naturalisation de ses parents, qui venaient, pour ce qui est de son père, de ce qu'on appellerait aujourd'hui la Pologne, et du côté Bérezniak, du côté de la famille de sa mère, c'est partagé entre l'Ukraine, la Pologne, la Biélorussie. Ce sont des Juifs de l'Empire russe, ce qui fait que Goscinny est quand même un Français de fraîche date, et de surcroît, à peine né, il a 2 ans, il franchit l'Atlantique, il se retrouve en Argentine, français, expatrié.
René Goscinny, Antenne 2, 1975.
C'est là où la vie d'un enfant à l'étranger est curieuse. J'avais toujours mes liens avec la France. Chez nous, on parlait français, j'allais dans un collège français, je faisais des études françaises. Mais pour moi, il y avait des termes d'un exotisme extraordinaire. C'était Corrèze, Angoulême, Limoges, les Deux-Sèvres. Tout ça, c'était terriblement exotique. Ce qui était banal, c'était Gaucho, Mendoza, les Andes. La Pampa, ça c'était banal. Par contre, la Corrèze.
Mon grand-père a eu un poste d'ingénieur chimiste à Buenos Aires. Ça, c'est la version officielle. En réalité, mon grand-père travaillait pour la
Anne Goscinny
Jewish Colonization Immigration, qui est un organisme fondé par le baron de Hirsch, qui crée en Amérique latine des colonies juives d'Europe centrale. Donc, mon grand-père faisait venir effectivement des juifs d'Europe centrale en Amérique latine, et paradoxalement, il n'a pas pu faire venir sa propre famille, qui est morte pour partie dans le ghetto de Varsovie, et sinon déportée à Auschwitz.
Qu'est-ce qu'on sait du petit René Goscinny ? À quoi il ressemblait ?
C'était un enfant vraisemblablement qui aimait avant tout faire rire, qui était aussi extrêmement angoissé, mais je pense que les nouvelles de la vieille Europe donnaient au foyer une coloration assez sombre. Mais je pense que c'était un enfant tel que je me le représente, un enfant assez gai, atypique probablement, passionné par le dessin, puisqu'il commence par le dessin, et par le cinéma, et par le fait de raconter des histoires.
Et je crois qu'il avait envie de faire un métier rigolo.
Ouais, bah il l'a fait. Il a fait rire une partie de la planète, c'est pas mal.
Oh, dans ma jeunesse, vous savez, depuis ma plus tendre enfance, je n'avais qu'un rêve, c'était de faire rire les gens. C'était glandulaire chez moi. Je crois que j'ai commencé à faire des grimaces bien avant de commencer à parler.
Heureusement, son père, tous les 2-3 ans, peut faire un voyage en France et emmène sa famille passer des vacances. Et alors, passer des vacances en France, c'est-à-dire que c'est tout de suite plusieurs semaines, même des mois, parce qu'il faut déjà plusieurs semaines de traversée en paquebot. Et après, en France, il découvrira les Pieds Nickelés. Il découvrira aussi Walt Disney. Il va recopier Blanche-Neige, Pinocchio, tous les dessins de Walt Disney qu'il aura vus au cinéma sur les grands boulevards avec son père. Et ça va pratiquement lui donner envie de faire son métier plus tard, hein, de faire de l'animation ou du dessin. Et il dessine tout le temps, il recopie les illustrés qu'il trouve. Il est très bon élève, mais il aime faire rigoler les autres. Et son obsession, c'est de faire rire de toutes les manières. Et la meilleure façon, c'est finalement le dessin. Bien sûr, il découvre aussi sur les grands boulevards avec son père Laurel et Hardy, et c'est une révélation pour lui. Parce que c'est vraiment l'incarnation de l'amitié et de la complicité improbable de deux personnages qui sont vraiment antinomiques. Et c'est là que René découvre le pouvoir en fait du duo, du binôme, la capacité à faire rire en étant à deux, en jouant sur les contrastes et les complémentarités.
Que vous aviez envie de voir les carnets de croquis de mon père. Il a fait beaucoup de caricatures.
Donc c'est seulement du dessin, il n'y a pas du tout de texte.
C'est seulement du dessin et c'est seulement du crayon à papier, comme vous pouvez voir. C'est quand même un dessin assez abouti. Hein. C'est pas rien, quoi.
Pourtant, lui-même disait qu'il dessinait de façon médiocre. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense qu'il a rencontré les meilleurs dessinateurs du XXe siècle. Je pense à Albert Uderzo, évidemment. Je pense à Maurice, qui tenait pour un génie. Je pense à Jean-Jacques Sempé. Je pense à Jean Tabary, dont on parle plus assez. Il était également très copain avec Franquin. Et il a été assez lucide et assez intelligent pour comprendre que ce qu'il faisait de mieux, c'était le scénario et c'était raconter des histoires. Ça, c'est lui, c'est un autoportrait de lui. On ne peut pas dire qu'il se valorisait énormément, mais il était assez
lucide. Pourquoi alors, est-ce qu'on peut décrire un peu sa tête ?
Voilà, on voit un petit bonhomme avec une valise, des fossettes et des cheveux crépus, heureux de vivre. Alors là, il a dessiné toute une famille de nazis qui s'appelait la famille Müller. Là, on voit Hitler dans un cadre.
Et à droite, c'est Philippe Pétain, et devant, c'est Pierre Laval. Pourquoi est-ce qu'il a représenté ces...
Mais parce que je pense que, vous savez, c'était une famille juive ashkénaze. Ils ont laissé en France et en Pologne, la famille maternelle de mon père restait en France et la famille paternelle de mon père restait en Pologne. Certains ont pu partir en Belgique, mais bon. Les lettres et les nouvelles qui arrivaient jusqu'à eux étaient quand même de plus en plus angoissantes et anxiogènes. Et il se trouve qu'en 1944, sa famille maternelle avait déjà été assassinée, puisqu'ils ont été assassinés en avril 1942. Donc il n'y avait plus de lettres, plus de nouvelles. Et d'ailleurs, le père de mon père, qui lui n'avait plus de nouvelles du tout de sa famille restée en Pologne, est mort en 1943 d'une attaque.
Et votre père, est-ce qu'il en parlait de ce traumatisme de sa famille perdue pendant
la guerre ? Mon père est mort en 1977, il avait 51 ans, c'était pas tout à fait prévu qu'il meure si tôt. Et sans doute, il en aurait parlé, mais il faut recontextualiser les choses. En 1977, la parole n'était pas encore tout à fait libérée pour les gens qui avaient dans leur chair souffert de tout ça. Mon père était plutôt du genre à dire on va rire et on pleurera plus tard, si on a le temps. Donc, il n'a pas eu le temps.
Vous savez, je ris comme ça, mais ça n'a pas toujours été drôle.
René Goscinny, Antenne 2.
Je ris, mais
1975.
Vous savez, c'est pour ne pas sangloter, quelquefois. Parlons de l'humour, alors. L'humour est un masque, puisque c'est finalement, vous êtes très triste, en réalité. Oh oui, vous savez, je suis le cadet d'une famille de deux enfants. Jusqu'à l'âge de 15 ans, j'ignorais qu'il y eût quelque chose entre le cou et le croupion du poulet. Le père était alcoolique et battait mère. Nous nous accrochions aux jupes de mère dans le placard. Et très vite, j'ai senti que par le rire était une défense. J'étais heureux quand je faisais rire. Vous voyez, il y a cet argument-là pour l'humour.
L'année 1943 est une année tragique pour René Goscinny, pour sa mère, puisque c'est après le succès au baccalauréat, donc c'est quand même la fin d'un cycle. C'est la mort brutale du père, en pleine activité, au moment de Noël en plus. Et une déstabilisation de la famille, qui se trouve d'ailleurs économiquement fragilisée.
René a 18 ans, il est en train de passer son bac, son frère fait des études, la mère doit se mettre à travailler, elle a 50 ans passés. Ils sont vraiment dans une galère à ce moment-là, parce que René a essayé de dessiner dans différentes agences à Buenos Aires, mais il n'est pas trop à la hauteur de ce qu'on lui demande.
Ce qui fait que la résolution est prise après un an et demi environ de tergiversations, hypothèses diverses et variées qui ne donnent rien, de poursuivre l'expatriation, mais cette fois-ci dans un tout autre milieu, New York. Et New York, arrivé à New York à l'automne 45, vous imaginez, le pays qui vient de gagner, principalement avec les Anglais, la Seconde Guerre mondiale, qui est à l'apogée de son influence, on pourrait dire impériale, c'est arrivé théoriquement là où ça va se passer. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les souvenirs de René Goscinny, c'est un souvenir effectivement très négatif. C'est, faudrait-il dire, l'enfer. Mais c'est une série de déconvenues. Il se voit dessinateur. Il rencontre des refus plus ou moins polis. Il va être obligé de travailler comme petite main dans des studios à l'américaine, c'est-à-dire des studios assez industrialisés, où on ne lui demande pas d'épanouir une grande créativité. En revanche, il fait des rencontres, comme Harvey Kurtzman, c'est-à-dire des gens qui vont jouer un rôle aux États-Unis dans le renouvellement d'une forme d'humour dessiné. Le magazine Mad en sortira et quelques autres. Et ce qu'il va découvrir principalement en dehors de la famille Kurtzman, si j'ose dire, de ses amis, ce sont les Belges qui s'expatrient au même moment. Goscinny va rencontrer là un certain nombre de de Belges, dont J.G. par exemple, déjà grand dessinateur, réputé en Belgique, Maurice. Et au fond, sa vocation de scénariste, elle va naître aux États-Unis de cette rencontre avec Maurice.
Il crée à ce moment-là aussi, influencé justement par J.G. et par Maurice, un héros de bande dessinée. Il aimerait faire de la bande dessinée, donc il crée un personnage qui s'appelle Dick Dix, qui est un détective privé, mais qui n'a rien à voir avec Dick Tracy, hein, qui est exactement l'inverse justement de Dick Tracy. Lui, il vient avec ton Dick Dix, qui est toujours un peu à côté de la plaque, qui arrive après la bataille, qui résout les affaires un peu par hasard. Et bon, c'est dessiné de façon assez simple et très efficace, mais sans beaucoup de décors et sans beaucoup de détails. Et du coup, il est exactement à contre-courant de tout ce qui fonctionne aux États-Unis à ce moment-là. En revanche, il y a un petit côté belge aussi dans son trait et dans son humour qui pourrait fonctionner en Europe. Et par chance, il croise un soir un grand ami de J.G. qui s'appelle Georges Troisfontaines, qui est un homme d'affaires, éditeur, qui travaille pour les éditions Dupuis et qui est sa propre boîte à ce moment-là, qui s'appelle humblement la World Press. Et par politesse, un peu, Georges Troisfontaines lui dit « Ah ben Goscinny, vous êtes très drôle, le jour où vous passez à Bruxelles, ben n'hésitez pas à venir me voir. » Goscinny le prend au pied de la lettre, met toutes ses économies de côté, prend ses planches de Dick Dick sous le bras qui n'ont guère de succès aux États-Unis et part à Bruxelles pour rencontrer Georges Troisfontaines. Et Georges Troisfontaines est absolument halluciné de voir débarquer ce jeune homme qu'il avait à peine croisé aux États-Unis. Il est paniqué en disant à son directeur artistique, qui n'est autre que Jean-Michel Charlier, « Écoute, dis à ce type-là que je ne suis pas là, dis-lui qu'il n'y a pas de boulot, enfin, essaye de t'en débarrasser. » Et en fait, Charlier trouve...
Qui est le futur cofondateur de Pilote.
Qui est le futur cofondateur de Pilote, qui est aussi scénariste, dit à Goscinny qu'on le rappellera, qu'il faut qu'il soit patient. Et Goscinny, en effet, est patient. Il part à Paris retrouver le seul oncle qui lui reste et il squatte un peu chez lui pendant une année avant qu'on lui donne une réponse pour publier finalement ses premiers Dick Dix dans un magazine belge. Pour lui, c'est la réussite. Ça y est, pour une fois, il imprime ses bandes dessinées et il commence à toucher un tout petit peu d'argent.
Donc les États-Unis vont avoir un résultat positif hors des États-Unis. Et paradoxalement, il va se mettre à travailler pour des Belges à Paris. Et c'est là que, peu à peu, il devient le grand scénariste de sa génération.
En fait, on est dans un bureau qui aurait pu être celui de mon père, puisque je l'ai reconstitué assez fidèlement. Il y a son bureau, là, le meuble bureau, il y a son fauteuil, ce bureau sur lequel il a écrit beaucoup, beaucoup d'albums qui ont dû vous faire rire. Et puis, il y a tous les numéros de Pilote que j'ai rassemblés. Et il y a aussi tous les albums d'Astérix. Et puis surtout, là, derrière vous, il y a un médaillé, je crois que ça s'appelle comme ça, que j'ai fait faire, dans lequel vous trouvez tous les scénarios originaux de mon père, ce qu'on appelle des tapuscrits, puisque mon père n'écrivait rien à la main.
Et tout autour de la bibliothèque, on voit certaines figures oui, sculptées dans le bois.
J'ai fait sculpter ces principaux personnages. Là, vous avez Lucky Luke, par exemple, Astérix, Is No Good, et le petit Nicolas, sur ce pont de mur-là. Et en face, vous avez une représentation de mon père qui regarde ces personnages.
Vous êtes le créateur, Monsieur Maurice, du cow-boy le plus connu, Lucky Luke. Quelles sont les origines du personnage ?
Vous savez, ça fait très longtemps, je ne sais plus très bien dans quel esprit je l'ai créé. Ça fait
ORTF.
C'était en 45 ou 46.
1974.
Fin 45, je crois. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi un cow-boy ? Je ne sais pas. Je crois que j'ai toujours été amateur de western quand j'étais gosse.
Comment votre collaboration avec Monsieur Goscinny a-t-elle commencé ?
Bien, j'ai rencontré René à New York. Et non seulement je m'apercevais que René avait le sens de l'humour, mais je voyais qu'il avait ce sens d'humour visuel qui est nécessaire dans une bande dessinée. Et c'est ça qui m'a poussé à lui demander.
Alors le premier Lucky Luke sur lequel Goscinny intervient, c'est « Des rails sur la prairie ».
Et donc c'est le 9e, les 8 premiers ont été faits par Maurice seul. Qu'est-ce que Goscinny a changé à Lucky Luke ?
Alors, ils avaient des contraintes à l'époque. Il ne fallait pas de mort dans les bandes dessinées jeunesse. Mais finalement, cette contrainte qui exaspérait Maurice a fini par être une force pour Goscinny parce qu'il pouvait y mettre toute une forme de violence, si on peut dire, du monde, c'est-à-dire des baffes, des coups de feu, tout ce qu'on voulait. Personne ne mourait jamais. mais ce qui était très réconfortant pour les enfants, parce que cette violence s'arrêtait à des coups de poing ou à des coups de revolver, mais jamais de sang, de mort, de choses insupportables pour des enfants.
Les Dalton ! Ils ont attaqué la diligence !
Les Dalton 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 !
Les quatre frères Dalton. Depuis leur enfance, ils terrorisent les hommes les plus courageux. Toute une carrière de stupidité et de méchanceté les a rendus célèbres aussi bien à l'ouest qu'à l'est des montagnes rocheuses.
Bah, vous savez, en France, la bande dessinée a été une chose extrêmement méprisée.
France Inter,
quand nous avons débuté, des gens de mon âge, je dois dire qu'il fallait aimer ça, il fallait avoir le cœur bien accroché, parce que c'était vraiment une chose pour imbéciles. D'ailleurs, encore maintenant, quelquefois, je m'amuse en lisant une critique de film où on me dit « ce film est très stupide, il est du niveau d'une bande dessinée ». C'est toujours agréable à entendre.
Considéré comme un art mineur.
Oh, même pas comme un art, comme un mal. Et puis, mon Dieu, peu à peu, les choses ont un peu changé. Le snobisme s'est mis de la partie, très certainement. Et puis, vous savez, ça avait beau être très méprisé, la bande dessinée avait énormément de lecteurs. Et peu à peu, ça s'est su, et puis ça s'est un peu dédouané.
René Goscinny, c'est peu connu, va contribuer à la valorisation du statut de la bande dessinée, en particulier en ce qui concerne la reconnaissance du travail des scénaristes, qui était alors là, au 36e dessous, dans une hiérarchie où déjà la bande dessinée était très basse. On mettait les dessinateurs au-dessus des scénaristes. Souvent, les contrats ne mentionnaient pas les scénaristes. Et c'était les dessinateurs qui les payaient au black. Enfin, on en était à cette situation-là, dans certains cas, dans les années 50. La bande dessinée est tellement bas que le mot bande dessinée vient à peine d'apparaître. On commence à parler de bande dessinée à la fin des années 40. En fait, on travaille pour les illustrés. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ben, je suis un écrivain raté, je suis scénariste pour les illustrés. Je suis un dessinateur raté, je travaille pour des petites histoires, des petits Mickey. Je caricature à peine.
Et les auteurs ont commencé à se réunir sous l'impulsion justement de Goscinny et de Charlier et du Derzo qui se sont retrouvés avec d'autres entre Paris et Bruxelles où ils se retrouvaient dans des cafés en fait pour parler de leur statut, de leurs problèmes, hein, pour se mettre d'accord et signer voilà, une charte établie pour défendre leurs droits et obtenir des garanties. Franquin, Jigé, Hubinon, Will, Mitac, Pape, Rosy, Kibé, Greg, Graton et deux Judas ont balancé finalement ces réunions à Trois-Fontaines. Et Trois-Fontaines a décidé d'en punir un pour l'exemple. Et c'était évidemment notre ami René Goscinny, qui a été pris pour l'instigateur de ce mouvement-là et qui a été directement du jour au lendemain viré de la World Press. Mais ça a quand même donné une certaine amertume, c'est sûr, mais surtout force à Goscinny parce qu'il s'est dit que maintenant, il ne dépendra plus d'un seul éditeur et d'un seul patron.
Mais ensuite, c'est en tant que patron de presse, patron au sens où il est directeur de publication à l'apogée de son pouvoir à pilote, donc au milieu des années 60, début des années 70, où là, il recrute de manière extrêmement large, il paye bien ses auteurs, c'est quand même pas négligeable.
Ce n'est pas normal.
René Goscinny.
Ce n'est pas normal de gagner sa vie en faisant ce métier, ce n'est pas normal de gagner sa vie
1975.
En étant comédien, ce n'est pas normal de gagner sa vie en faisant le superflu. On peut très bien se passer de nous, et je crois qu'il faut s'en souvenir à tout instant. On peut très bien se passer d'un Goscinny, on peut plus difficilement se passer d'un boulanger. Par conséquent, c'est tout à fait anormal que l'on puisse gagner sa vie en faisant ça. De là à dire que je le regrette, ce sera un grand pas.
L'aventure de pilote, on le sait maintenant, est assez complexe. C'est une idée très années 50 finissante, peut-être un peu Général de Gaulle revenant au pouvoir en 58 aussi, un peu cocorico. C'en est assez de la présence belge, et il faudrait quand même être capable de faire un hebdomadaire pour la jeunesse, avec une certaine tenue, une volonté pédagogique, presque moraliste, un peu scout, quoi, tout simplement. Plus efficace encore que Tintin ou Spirou, qui sont les principaux modèles. Tout ça rapproche d'ailleurs d'un média important qui s'appelle la radio, en l'espèce Radio Luxembourg, qui n'est pas encore RTL, et qui va jouer un rôle dans le lancement de Pilote. Et Goscinny, ben, il est associé à Uderzo pour Astérix. Et puis peu à peu, tout ça prend de l'ampleur. L'équipe initiale passe la main pour diverses raisons. Radio Luxembourg se retire sur la pointe des pieds. Dargo arrive, l'éditeur Dargo. Et finalement, on se tourne vers les gens compétents. Et c'est une sorte de couple entre Charlier et surtout de plus en plus Goscinny qui va prendre la direction de la rédaction. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est le producteur Dargo, hein, c'est le vrai patron capitalistique qui a pris cette décision. Mais quand même, il confie plus que jamais la direction à des auteurs, je dirais presque à des artistes, hein, de l'écriture et du dessin. Et là, c'est le grand succès parce que Goscinny va bien entendu faire bénéficier le journal de l'aura d'Astérix qui atteint vers 1965-67 des tirages et des ventes incroyables, jamais connues dans l'histoire de la bande dessinée, hein, en tous les cas francophone et peut-être même mondiale. Ça lui permet d'avoir les mains libres pour recruter Gottlieb, par exemple, Fred, Druyet, Mandrika, Claire Bretéché. Et puis, d'une certaine façon, il permet à certains de se découvrir. Bon, c'est le cas pour Gottlieb. Clairement, le talent parodique de Gottlieb, c'est Goscinny qui lui dit « mais vas-y ». Cabu, dont il remarque dans les dessins illustrant un texte de Goscinny autour de la vie d'un lycée, il remarque la figure de ce qui sera le grand Duduche. Et la mutation est encore plus impressionnante pour Jean Giraud, qui devient Moebius, sous l'égide de Pilote. Et à la fin de la période Goscinny, dans les années 71, 12, 13, 14, on voit apparaître Tardy, Fmur, et même le petit Bilal qui gagne un concours organisé par Pilote. Franchement, Pilote, ça a été, aux alentours de 1970, quelque chose d'absolument exceptionnel, dont il n'y avait pas eu l'équivalent avant, et dont il n'y aura plus du tout l'équivalent après.
Les locaux de Pilote, ils étaient...
Patrice Lecomte.
Modernes, pas... enfin, c'était bien rangé, c'était pas foutraque du tout. Il y avait les bureaux dans lesquels les maquettistes maquettaient. Il y avait la salle de réunion dans laquelle on se retrouvait tous le lundi pour le conseil de rédaction. Il y avait le bureau de Goscinny que j'ai très peu fréquenté. Je l'ai fréquenté une seule fois, quand il m'a fait venir dans son bureau pour me dire « Voulez-vous travailler au journal ?» Et pendant 5 ans, effectivement, j'ai vécu en travaillant pour Pilote uniquement. Et ça m'a plu beaucoup, parce qu'il y avait quelque chose de... Il y avait quelque chose de joyeux et de serein. Le lundi après-midi, on allait chez Dargo, il y avait la salle de réunion. À un bout du fer à cheval, il y avait Goscinny et Jean-Michel Charlier, généralement, mais toujours Goscinny, bien sûr. Et puis on était tous réunis autour de la table. Le casting était prestigieux parce qu'il y avait Gottlieb, Fred, Rezer, Bretéché, GB, Mandrika, Druyet, Giraud, enfin Moebius. Et on était heureux d'être ensemble et on proposait des idées. Et Goscinny avait le chic pour choper les idées bonnes ou les idées pour rejeter discrètement et avec politesse les idées pas bonnes. Et c'est comme ça qu'il nous distribuait des pages pour faire les premières pages du journal qui étaient ce qui s'appelait les pages d'actualité, qui commentaient l'actualité ou qui rebondissaient sur un événement ou un truc ou un détail qui nous avait fait marrer. Et après, on traînait tous un peu sans lui. Sans Goscinny, on traînait au café à côté pour boire des Schweppes ou je sais pas quoi. Et puis après, on rentrait chez soi, puis on se disait « Ah, chouette, j'ai 2 pages à faire pour la semaine prochaine. » Ou bien « Oh, bah zut, ce que j'ai proposé n'a pas plu à René Goscinny. » Donc, j'ai rien.
Pourquoi est-ce que vous alliez au café sans lui ?
Parce qu'il était ouvert, bienveillant, amical, mais aucun d'entre nous, ni même Gottlieb, qui a travaillé très longtemps avec lui, aucun d'entre nous ne pouvait dire de René Goscinny, c'est notre copain. C'était le patron de Pilote. Une fois que le conseil de rédaction était terminé, il remontait dans son bureau et nous, on allait au café. Mais il ne serait jamais venu à l'idée de dire à René Goscinny « Venez prendre un Schweppes avec nous ». Enfin, c'était quand même lui le patron, quoi.
Messieurs, nous allons imposer aujourd'hui le numéro 583 du 7 janvier. Il nous reste 9 pages à programmer, plus 3 pages dans le 585 du 21 janvier. Je vous rappelle que le 583, nous avions dit la semaine dernière qu'éventuellement nous nous occuperions des scouts. Il y a déjà 2 pages de technique du scoutisme de Debeketch et Gousset et 2 pages sur la crise du scoutisme de Claire Bretéché.
Le journal Pilote, à quoi est-ce qu'il a servi pour la bande dessinée française ?
Ça a permis de découvrir des talents quoi, qui n'existaient pas avant. Ça a permis de recueillir des talents qui existaient avant, et quand Harakiri a été supprimé, tous ces gens-là sont retrouvés un peu le bec dans l'eau, quoi, sur le banc de touche, et Goscinny, et c'est là où il est vraiment, il était vraiment formidable, quoi. Il a dit à Rezer, à GB, venez travailler à la
et
maison.
À Cabu.
Et à Cabu aussi, bien sûr, j'oubliais Cabu. Comment peut-on oublier Cabu? Et il les a invités au journal, alors que l'esprit de Goscinny et l'esprit d'Harakiri ou de Charlie, c'était deux mondes différents. Mais ça prouve au moins que Goscinny, il avait cette ouverture d'esprit qui lui faisait accepter et publier des pages qui n'étaient pas vraiment de son monde, quoi. Cela dit, des gens comme Rezer, par exemple, il faisait des pages pour Pilote qui étaient non pas dans l'esprit de Pilote, ça veut rien dire, mais qui étaient quand même plus politiquement correctes, par exemple. Je me souviendrai toujours, c'était inouï, quoi, parce que Rezer, il avait des idées qui n'étaient rien, mais dont on savait que ça deviendrait un truc formidable. Par exemple, un lundi, Goscinny lui dit, et vous, Rezer, qu'est-ce que vous avez comme idée? Ah, moi, j'aimerais bien faire deux pages sur les montres de plongée. Bon. Et Goscinny, mais oui, bon, les montres de plongée. Oui, parce que les montres de plongée, c'est marqué que c'est étanche jusqu'à 100 mètres. Et moi, je voudrais acheter une montre de plongée, puis voir si vraiment, à 100 mètres, c'est toujours étanche. Alors, il n'avait pas besoin de dire plus. Goscinny dit, ok, Rezer, deux pages. Et la semaine suivante, on avait deux pages de Rezer qui étaient insensées, qui étaient inouïes, qui étaient une drôlerie folle, parce que c'était un génie, ce mec-là, sur les montres de plongée. Bretéché était très forte pour ça aussi. Elle proposait des... Et vous, Claire? Il l'appelait Claire, il l'appelait pas... Et vous, Bretéché? Il disait, et vous, Claire? Ah, oh, ben, moi, je... Oui, c'est les jupes escargots. Ça vous dit rien, vous, les jupes escargots, mais enfin, bon. Très bien, une page pour les jupes escargots. Il disait, à partir du moment où elle a un truc, ça va être bien.
J'ai fait toute la rédaction, comme tout le monde, avec des dessins.
Claire Bretéché, France Culture, 1989.
Je suis allée à Pilote, j'ai rencontré Guy Goscinny, qui m'a reçu d'une façon, je suis sortie pratiquement bouleversée, parce quand il recevait des jeunes dessinateurs totalement inconnus, il les traitait comme si c'était des gens importants. Donc, il prenait en considération ce qu'ils faisaient, tout ça, ce que les dessinateurs faisaient. Alors, c'était très bien. Et puis, Goscinny, c'était le dieu, évidemment, à l'époque. Et il m'a donné un petit truc à faire sur un scénario de lui, pour un journal pour Los Amuel, que Pierre Dac et Francis Blanche ressortaient, qui avait déjà existé avant la guerre et qui ressortaient. Et voilà, et j'ai complètement bousillé le boulot, parce que je ne savais absolument pas dessiner. D'une part, je ne savais pas dessiner du tout, et d'autre part, encore moins sur un scénario de quelqu'un. D'autres, parce que quand on dessine sur ses propres idées, on se garde bien de mettre des objets, d'avoir à dessiner des objets qu'on ne sait pas dessiner. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui fait le scénario, alors là j'avais à dessiner des immeubles en ravalement. Je vais vous dire que c'est pas de la tarte. Alors je savais pas du tout faire ça, donc je me suis très mal tiré de ce truc et donc il m'a pas rappelé. Mais enfin j'y suis retournée quand même quelques années après. 4 ans après. 5 ans après.
Je vais vous montrer quelque chose de très rare, c'est-à-dire ça, Astérix le Gaulois, c'est donc le premier Astérix. Je vais vous montrer, donc c'est conservé dans une boîte, comme ça. Donc là, vous avez un classeur dans lequel vous avez des feuilles de bloc Rodia avec l'écriture de mon père. Et là, vous avez la première fois que mon père a écrit le nom des personnages et leurs fonctions. Alors je lis. Avec son écriture que j'aime tellement, il écrivait avec un stylo 4 couleurs, pas un stylo en plastique, il avait un stylo en argent que ma mère lui avait offert, 4 couleurs. Il a écrit personnage, Astérix, guerrier, Obélix, son ami livreur de menhir, Panoramix, druide, Assurance Tourix, barde, Abracoursix, chef guerrier, sous les tropiques. Alors là, je pense que ce personnage n'a finalement pas vu le jour, et c'est Automatix. Ce sont tous des chefs. Et un peu plus bas, vous avez le nom des centurions que vous connaissez, Caius Bonus, Marcus Sacapus, etc. Si on tourne la page, vous avez ce qu'on appelle le synopsis. Et ça, c'est le document que mon père envoyait à Albert Uderzo. Là, vous avez la feuille coupée en deux. À gauche, les Gaulois, à droite, les Romains. Donc, ce qu'on vient de voir. Et ensuite, il va découper son album en paragraphes. Chaque paragraphe est une page. Donc, voilà. Là, vous avez le scénario tel que vous le voyez dans l'album. Et la page est coupée en deux dans le sens de la longueur. À gauche, vous avez la description de la case. Et à droite, vous avez le texte. Donc, à gauche, on peut lire. Des soldats romains marchant en rang, on peut ne voir que leurs jambes, comme dans les documentaires montrant les Allemands entrant en France. Si je vous montre la case, vous avez exactement cette image-là, c'est-à-dire les soldats romains, comme dans les documentaires, les soldats allemands. Et là, vous avez le texte à droite. En 50 avant Jésus-Christ, nos ancêtres les Gaulois avaient été vaincus par les Romains après une longue lutte. Et là, c'est exactement le texte que vous avez ici. Pour chaque album, c'est exactement comme ça. Et mon père était extrêmement organisé, extrêmement méticuleux. Et de toute façon, on peut imaginer qu'avec une œuvre de cette ampleur-là et un décès si jeune, s'il n'avait pas été organisé, il n'aurait pas pu faire tout ça. Donc voilà. Je range. Et vous avez comme ça un tiroir par album.
Il y a combien de tiroirs ici ?
En principe, 24. Enfin, 24 concernant Astérix, plus un qui est les 12 travaux d'Astérix, mais qui n'est pas un album, qui est un film, un dessin animé. Et je referme.
En 50 avant Jésus-Christ, la Gaule était couverte de forêts impénétrables où régnait un silence majestueux. Jules César, après de rudes combats, avait réussi à conquérir le pays pour y apposer la marque triomphale de la civilisation romaine. Oui, en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Quelque part en Armorique, un petit village résiste à l'envahisseur, un petit village entouré de camps retranchés romains.
Dans l'itinéraire de votre travail, de votre métier, vous deviez nécessairement passer par Astérix.
France Inter.
Non, d'autant moins d'ailleurs.
1972.
Astérix a failli ne pas naître. Nous avons créé Astérix pour le journal pilote que nous avions fondé. Et on nous a demandé, à Uderzo et à moi, de créer une histoire. Et la première idée que nous avions eue, c'était de moderniser le roman de Renard en bande dessinée. Et nous avions d'ailleurs fait une ou deux pages, et ça nous plaisait bien, et puis nous avons appris que quelqu'un venait de faire quelque chose de tout à fait similaire. C'est à ce moment-là que nous avons dit, bon, mais il faut chercher autre chose, et cette autre chose a été Astérix.
Je vais apprendre à porter des menhirs, Astérix. Comme ça, il pourra m'aider dans mon travail.
Tu sais, Obélix, ce n'est pas que je mette en doute l'intelligence d'Idéfix, mais je me demande quelquefois s'il n'est pas un peu petit pour tes menhirs.
Celui qui vient de parler avec tant de sagesse n'est autre qu'Astérix, le meilleur guerrier du village.
René Goscinny a rencontré Charlier, il rencontre aussi un autre homme qui est à peu près son âge, qui est d'origine italienne.
Et voilà, la rencontre. René raconte que dès le premier jour, Albert lui a suggéré une association provisoire. Et René dit nous étions complémentaires et nous parlions le même langage.
Le premier Astérix est à peine promu par l'éditeur d'Argot. Il se vend environ 20 000 exemplaires. Ça sort au début des années 60, l'album, avec un décalage de 2 ans par rapport à sa sortie dans Pilote en 59. 6 ans plus tard, Astérix chez les Normands, premier tirage, 1 200 000 en 2 jours.
Assurance Touriste !
Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ?
Oh, enfin, voyons, j'ai besoin de toi, Assurance Touriste !
Non, inutile d'insister, je repars à Lutèce, parce que, mais si, l'Olympix me tend les bras. D'ailleurs, je me vois déjà, toutes les chandelles braquées sur moi, j'arrive sur la scène en vedette armoricaine. Enfin, en vedette armoricaine pour le début, après on verra.
Assurance Touriste, oui. Ces gens sont venus de très loin pour entendre de la chanson gauloise. Tu ne vas pas les décevoir tout de même.
Ah bon, ces hommes du Nord ont vraiment fait tout ce chemin pour m'entendre chanter?
Mais puisque je te le dis.
Ah oui, évidemment. Ah ben alors oui, c'est un récital que vous me demandez.
Voilà.
Un homme spectacle, comme disent les Bretons.
Voilà. Alors je sais que je peux compter sur toi, Assurance Touriste.
Ben oui, mais une seconde. Tu comprends, un récital, c'est très joli, mais ça se prépare, un récital. Oh. Ah, tu sais combien de temps il faut pour préparer un récital? Qui ressemble à quelque chose, hein? Faut au moins 3 mois.
Oh.
Ah, si, il faut 3 mois de répétition et de travail intensif. Et quand je dis 3 mois, c'est un minimum.
Oh.
Hein. C'est que j'engage ma carrière, moi. Il ne s'agit pas de prendre un ventre.
Je pense que nos fidèles auditeurs auront très bien compris ce qu'Assurance Tourix entend par prendre un ventre. Le bide ne fera son apparition que bien plus tard, mais nous n'en sommes pas là naturellement. Assurance Tourix exigera-t-il 3 mois de préparation pour son récital ? Au fait, pourquoi ce récital ? Ne vous donnez pas la peine de chercher, puisque vous aurez toutes les réponses, toutes celles que vous appelez à grands cris, lors du prochain épisode d'Astérix de Gaulois.
Et donc, il s'est passé quelque chose de fondamental, j'allais dire, dans la société française dans les années 60, autour d'Astérix.
Pascal Horry.
En jouant avec une mythologie nationale, avec des effets simples, et puis plus sophistiqués par les citations latines, les références à telle ou telle autre œuvre, on sent bien que c'est là l'équilibre de la forme d'humour que Goscinny affectionnait. Il est plus libre qu'avec Lucky Luke, où la présence de Maurice fondateur est quand même très prenante. Il se laisse moins lâcher que dans Is No Good, où son goût pour le calembour dépasse tout. Je trouve que là, il a trouvé un équilibre qui se retrouve d'ailleurs dans le dessin de Uderzo. Mais c'est sans doute parce que nous sommes aussi à l'époque du général de Gaulle et qu'il y a quelque chose du petit village gaulois qui résiste. Mais attention, plusieurs pays étrangers ont fait fête à Astérix. Bizarrement, l'Allemagne a adoré. Quand on voit ce que Goscinny sort sur l'ego, on s'interroge. Et plusieurs pays étrangers se sont retrouvés dans, évidemment, ce petit David face à Goliath. Je me rappelle un jour un spécialiste de l'Indonésie qui parlait du succès des albums d'Astérix en Indonésie parce que le lecteur indonésien retrouvait le village traditionnel indonésien, la lutte contre le colonisateur néerlandais dans cette affaire. C'est-à-dire, c'est le succès universel de celui qu'on considérait comme un franchouillard au départ.
Astérix de Galles.
Astérix de Gaulle.
Astérix.
Au grand star de Galles.
Astérix ou Gaulle.
Astérix.
The hero of these adventures.
Miraculous.
Der ehrwürdige Druide des Dorfes.
Majestätis
Mischstein.
Erstammen Schäfer.
Majestätis.
Musik.
Siavrot.
Der Gaule Kriegerin.
Respektierat.
Das Lament.
Doch Miraculix hat noch andere Rezepte.
Ein Sachs Creme Honum.
Der Erat Himmelnvolle.
Rangumpanier
Asterix.
Im Novas Aventuras.
Est-ce que vous pouvez nous parler de son amitié avec Albert Uderzo ?
J'ai rien d'autre à dire que c'était son frère qui s'était choisi, son complice absolu, l'homme à qui il voulait plaire sans doute avant tout le monde. C'était son ami comme on n'en a qu'un dans une vie, je crois. Bien sûr, c'était son compagnon de succès, mais... On peut avoir du succès avec quelqu'un et pas passer tous ses week-ends avec cette personne. Mon père et Albert passaient des vacances ensemble, des week-ends ensemble. Et ce qui est drôle, parce que c'était vraiment la carpe et le lapin. Hein. Albert adorait les bagnoles, il adore la campagne, il avait une maison à la campagne dans les Yvelines, les chiens, les arbres. Alors que mon père disait, pour moi, la civilisation s'arrête au dernier bec de gaz. Donc, les courses de voiture, un jour, Albert a voulu que mon père vienne le voir faire des tours de voiture sur un circuit automobile. Et mon père était désespéré. Il a dit à Albert, mais la prochaine fois, prends un revolver, ça sera plus propre. Voilà, c'est vraiment deux hommes qui, a priori, n'avaient rien en commun et qui pourtant s'aimaient au-delà de tout.
Les copains, on s'est cotisé pour acheter un cadeau à la maîtresse parce que demain, ça va être sa fête. D'abord, on a compté les sous. C'est Agnan qui est le premier en arithmétique qui a fait l'addition. On était contents parce que Geoffroy avait apporté un gros billet de 5000 vieux francs. C'est son papa qui lui a donné. Son papa est très riche et il lui donne tout ce qu'il veut. Nous avons 5207 francs, nous a dit Agnan. Avec ça, on va pouvoir acheter un beau cadeau. L'ennui, c'est qu'on ne savait pas quoi acheter. Et on devrait offrir une boîte de bonbons ou des tas de petits pains au chocolat, a dit Alceste, un gros copain qui mange tout le temps.
Le petit Nicolas apparaît exactement au même moment qu'Astérix, en fait, à la fin des années 50, parce que Goscinny, à l'époque, n'est pas encore clairement identifié à Pilote. Il n'est qu'un employé, avec Uderzo ou Charlier, grand scénariste de cet hebdomadaire. Et il a rencontré sur son chemin Sampé. Ils ont d'abord tenté d'imaginer un petit Nicolas en bande dessinée, qui n'a pas convaincu. Et ils allaient y renoncer quand ils ont croisé le chemin d'Henri Amouroux, qui était à l'époque le rédacteur en chef de ce quotidien important sud-ouest, et qui leur a proposé ce qu'on appellerait aujourd'hui un one-shot, c'est-à-dire de faire une nouvelle écrite par René Goscinny pour le supplément dominical avec des dessins de Sempé. On n'est donc pas du tout dans le domaine de la bande dessinée, en effet. Alors là, les lecteurs ont plébiscité, ça c'est très important, ont plébiscité cette première nouvelle, ce qui fait que Amouroux, Sempé, Goscinny ont été obligés de donner une suite. Je tiens personnellement le Petit Nicolas pour une grande réussite littéraire, et sans diminuer le rôle de Sempé. Évidemment, si on retire les dessins de Sempé, je pense qu'une bonne partie du succès s'envole. Hein. Mais c'est une littérature pour la jeunesse, mais en même temps pour la famille, donc tout à fait lisible par les adultes, avec des allusions qui ne peuvent être comprises quand c'est du second degré que par les adultes. Le génie, évidemment, c'est qu'un adulte, René Goscinny, se met à parler, pas complètement d'ailleurs, comme un jeune enfant de l'école primaire. Et c'est, disons, l'adolescent et a fortiori l'adulte qui sourit parce qu'il voit bien le décalage. C'est assez représentatif de l'humour de Goscinny, de sa réussite, d'après moi, et de sa capacité à construire une commedia dell'arte. Le Petit Nicolas, un peu comme Astérix, étant presque le personnage le moins haut en couleur. Astérix vaut parce qu'il y a Obélix, comme Tintin vaut parce qu'il y a le capitaine Haddock, etc. Et tout le village gaulois, c'est une commedia dell'arte. C'est la même chose pour la classe du Petit Nicolas.
Alors, René Goscinny rencontre sa femme lors d'une croisière, ça sera dans les années 60, quand il est déjà une vedette. Il la rencontre parce qu'il a toujours gardé cet amour des bateaux et des croisières depuis son enfance. Et il découvre cette jeune niçoise qui est avec sa mère. Elle est toute jeune, elle a 23 ans, je crois.
Lui, à quel âge?
Oh, lui, il a la quarantaine. Et il essaye de se faire remarquer par cette jeune femme absolument magnifique, brune, aux cheveux longs, fins. Elle dîne et en face de ce gars très amusant qui lui fait des grimaces et qui se met à manger les fleurs qui sont devant son nez. Il la faisait rire aux éclats et voilà comment ils se rencontrent. Mais elle ne sait pas qui il est. Elle n'a jamais lu ses livres et ça le repose beaucoup d'ailleurs, qu'il ne soit pas reconnu ni connu. Et quand elle va enfin lire, découvrir son écriture et savoir qui il est, eh bien, ça va encore renforcer évidemment toute l'admiration et qu'elle a pour lui et son amour. Et ils vont vivre une histoire assez merveilleuse jusqu'à malheureusement que la mort les sépare.
Vous êtes marié depuis combien de temps?
France Inter.
Ça doit faire 6 mois, 3 semaines, 2 jours et 4 heures.
1967.
Je voudrais quand même demander à votre épouse René Goscinny comment elle s'appelle, parce qu'il n'a pas daigné nous présenter de façon détaillée.
Comment je m'appelle?
Oui, vous avez un prénom tout de
même. Gilberte.
Vous vous connaissiez depuis longtemps?
Oh oui, on se connaissait depuis 2 ans et demi.
2 ans et demi, vous êtes connue comment?
Sur un bateau, en allant aux Antilles.
Elle m'a beaucoup plu parce qu'elle est très Antille.
Vous ne faites pas votre âge.
Voyez-vous, c'était à bord de l'Antille, elle est très Antille. Je le répéterai inlassablement jusqu'à ce que quelqu'un sourie. Merci mon lapin. Il est vrai que quand j'ai connu ma femme, je l'ai connue au gala du commandant, voyez-vous, on ne se mouche pas du pied.
On dit madame ma femme.
Madame ma femme, et alors, chère petite madame, et alors, je me suis tout de suite, enfin nous avons parlé, je me suis présenté, tout ça, et puis elle m'a demandé, comme ça se fait habituellement, qu'est-ce que vous faites dans la vie et pourquoi. Et j'ai eu beaucoup de mal à lui expliquer effectivement ce que je faisais dans la vie. C'est un problème qui se pose d'ailleurs, que j'ai résolu maintenant. Enfin, quand j'ai du mal à expliquer, je dis que je suis aide comptable. Ça arrête toutes les discussions, les gens disent bon.
À hauteur d'enfant de 9 ans, il ressemblait au couple qu'on rêve tous de former avec nos conjoints. C'est-à-dire, c'était des gens qui étaient extrêmement amoureux physiquement l'un de l'autre. Enfin, je me souviens, quand on prenait l'ascenseur tous les trois, ils se roulaient des pelles, quoi. Enfin, je veux dire, lui, il était fou d'elle. Ils étaient complices tout le temps. Il suffisait qu'il y en ait un qui dise un mot pour que l'autre éclate de rire. Et puis, elle était ce qu'il voulait qu'elle soit. C'est-à-dire qu'elle a arrêté ses études pour s'occuper de lui, pour recevoir ses amis à lui. À la fin de sa vie, elle a voulu reprendre des études d'anglais à Sancier, Paris 3. Et il était furieux. Il était furieux parce qu'elle avait 34 ans, qu'elle était très jolie et qu'il s'est dit quel étudiant gauchiste va venir me l'enlever. Et du coup, il allait la chercher, lui, à la fac, avec sa Mercedes et son chauffeur.
Anne Goscinny, est-ce que votre père vous lisait ces histoires ?
Non, pas du tout. Ouh là là, mon père écrivait pour... D'abord, mon père n'écrivait pas pour les enfants. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Mon père écrivait pour tout le monde. Et mon père écrivait d'abord, en premier lieu, pour les dessinateurs pour lesquels il écrivait. C'est-à-dire, Albert Uderzo était le premier lecteur, évidemment, du scénario d'Astérix qu'il allait illustrer. Maurice, pareil, Tabary, Sempé. Mais mon père ne me lisait pas ces histoires. En revanche, mon père me racontait des histoires parfois, quand il avait le temps. Et il me racontait, par exemple, Le Petit Chaperon Rouge. J'ai un souvenir de ça. Mais il y avait un public. Hein. Il y avait ma mère, ma grand-mère. Enfin, il y avait un public au pied du lit. Où le grand méchant loup avait l'accent belge de sa belle-mère, de la mère de ma mère. La gentille grand-mère avait l'accent yiddish de sa propre mère. Enfin, tout d'un coup, c'était devenu une fantaisie incroyable. Et moi, je râlais. Je disais, mais tu peux pas raconter comme tous les parents du monde, normalement, quoi. Sans prendre 200 accents différents. Il était hyper doué pour les accents. Il allait tous les ans au Festival de Cannes et il pouvait vous refaire une conversation en suédois en imitant Ingmar Bergman. C'était à mourir de rire, quoi. C'était un homme qui était incroyablement doué pour énormément de choses et qui n'a pu exprimer ses dons multiples qu'à travers la bande dessinée et un petit peu le cinéma d'animation. S'il avait vécu, je pense qu'il aurait fait du cinéma, peut-être du cinéma d'animation, mais sans doute aussi du cinéma en prise de vue réelle, comme il l'a fait avec Pierre Tchernia pour Le Viager ou Les Gaspards. Je sais que l'expérience du Viager qu'il a écrit avec Pierre Tchernia et sur le tournage duquel il est allé quasiment tous les jours pour assister Pierre Tchernia, qui était son grand ami, ça a été une de ses plus belles expériences professionnelles.
Je crois qu'on a sonné, Mimine. Tu veux aller voir qui c'est ?
Jules César est devant le village et demande à te parler.
Jules César ? Le Jules César ?
Soi-même.
Bon, un linge pour mes pieds, mes chaussures. Préviens tout le monde, Astérix. Faites avancer mon bouclier. Ouais, ouais, on arrive. Salut, Jules. Que viens-tu faire ici ?
Je viens te faire une proposition. La résistance que tu me poses porte ombrage à ma gloire.
Il s'est éloigné de la bande dessinée vers le cinéma. Il a fondé avec Uderzo un studio qui s'appelle le studio Idéfix.
L'histoire du studio Idéfix est très courte, environ 4 années, disons 1974-1978, marquée par la production d'ailleurs de deux dessins animés assez importants, les 12 travaux d'Astérix, mais aussi la balade des Dalton. Ce sont des scénarios originaux de Goscinny, avec intervention de quelqu'un d'essentiel pour cette phase audiovisuelle de la vie de Goscinny, qui est Pierre Tchernia, qui a à peu près son âge, qui lui aussi est fils de Russes, immigrés, etc. Bon, beaucoup de liens a priori, et un même sens de l'humour, ce qui est encore le plus important. Et Idéfix, c'est l'idée que ça suffit, les États-Unis d'accord, mais est-ce que la France ne pourrait pas avoir ses propres studios capables de concurrencer ? Et à l'époque, Uderzo et Goscinny, puisque ce sont eux les deux principaux patrons au sens capitalistique des studios Idéfix, en ont de l'argent. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils vont réunir une très belle équipe venue justement de différents studios, dont quelques-uns de studios américains ou des studios de Paul Grimaud, composés de salariés qui... n'en reviennent pas de pouvoir travailler, parfois peu travailler parce que les commandes ne sont pas à la hauteur, toute l'année en étant rémunéré, ce qui ne se fait pas dans le métier, ce qui ne se refera plus. Goscinny avait un vrai sens de l'entreprise, au sens le plus général du mot entreprise, tout en restant un auteur. Ça, on l'a bien complètement oublié, puisque l'expérience Idéfix s'est terminée tout simplement en raison de la mort de René. Il est vraisemblable que, de toute façon, même sans cette fin tragique, les studios Idéfix battaient de l'aile. C'était trop beau pour durer.
Il vous faudra pénétrer dans l'antre de la bête.
L'antre de la bête ? Elle est comment, la bête ?
Je ne sais pas, personne n'est jamais ressorti de là. Heureux de vous avoir connu.
On y va, Obélix ?
Ah oui, ça m'a l'air intéressant.
Madame, mademoiselle, monsieur, il n'y aura pas de nouvel album d'Astérix comme celui-ci. Celui-ci, ce sont les Lauriers de César. Il y en a 22, je crois, ou 23, qui se terminaient par Obélix et compagnie. Il n'y aura plus de nouvelle histoire d'Astérix le Gaulois, car René Goscinny, le créateur de ce petit personnage de Gaulois râleur et brave, est mort aujourd'hui victime d'une crise cardiaque.
On est en 1977. Goscinny a à peine plus de 50 ans. Mais c'est un grand surmené, c'est un grand inquiet, donc un grand perfectionniste. Son cœur ne suit pas, son père est mort brutalement d'une crise cardiaque aussi, il y a un terrain. Il finit par se convaincre de suivre les prescriptions de certains cardiologues et finalement de passer un test d'effort sur une machine. C'est un rendez-vous un samedi matin dans une clinique privée du quartier Monceau, où il n'y a pas de réanimateur, au cas où. Et le cas va se produire. C'est-à-dire que c'est un gag atroce, c'est de l'humour très noir. Le gag est très concluant, on lui demande un test d'effort, il fatigue, il demande au médecin s'il ne pourrait pas s'arrêter, le médecin lui dit « faites encore un effort » et il meurt sous les yeux de sa femme.
Maman est rentrée seule à la maison ce jour-là, vous étiez partis tous les deux. Un seul trousseau de clés jeté sur le meuble de l'entrée. Tu étais mort, mort. Voilà. Mort jusqu'à quand, maman? Et on pourra garder le chien? Pourquoi tu pleures, maman? Je peux quand même aller jouer chez Caroline? Moi, je demande ça parce qu'il était question que sa mère nous emmène au jardin d'acclimatation et que, de toute façon, si la mort, c'est définitif, ça ne changera rien que je n'aille pas au jardin d'acclimatation. Voilà, papa, les premières questions qui me sont venues à l'esprit lorsque j'ai compris ce que signifiait le bruit d'un seul trousseau de clés jeté sur le meuble de l'entrée. Bruit anodin, qui pourtant allait guillotiner mon enfance.
There are guys who just figure every problem with a gun and a finger on a trigger can be dangerous, hurt but problems solved much better by keeping calm and cool.
C'était René Goscinny, auteur majeur pour art mineur, avec Anne Goscinny, Catel, Pascal Horry et Patrice Lecomte. Merci à Philippe Druyet, à Christian Godard, à Victor Massé de l'Épinay, à Dargo et à Imav Édition. Lecture, Gabriel Bévière. Prise de son, Thomas Robin et Arthur Gerbeau. Toute une vie, coordination Christine Bernard, attachée de production Daphné Abgral, avec la collaboration de Julia Martin. Une émission d'Assia Khalid et Romain Weber.
Tu as inventé suffisamment d'histoires pour que ta voix peine à s'éteindre. Sais-tu, papa, ce que ton œuvre a de constant? Tu n'as jamais donné la mort. Les plumes et le goudron ont tenu lieu de potence. De ton univers, tu es le seul mort. Moi, j'aurais aimé être l'un de tes personnages. Une enfance qui n'en finit pas. Une bulle dans une case. C'est tout.
Vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission sur franceculture.fr, un site préparé et enrichi par Daphné Abgral et Maud Jussaume.